Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, guerre Iran-Irak, invasion du Koweït, confiscation des ressources par des régimes autoritaires, contre-choc pétrolier, fin de l'État-providence. Ce cinquième volet de notre série en 6 épisodes consacrée à une histoire arabe du pétrole évoque la crise des États pétroliers. Il est, comme les autres, tiré du livre de l'historien Philippe Pétria, Au pays de l'or noir, publié chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Comme à son habitude, Mathias Golchani a réalisé cette émission de RFI que vous pourrez réécouter sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Philippe Pétria.
Bonjour Éric Bataillon.
Nous sommes dans les années 80 et 90, Philippe Pétria. Après le faste des années 70, le secteur pétrolier est-il en déclin ?
C'est moins le secteur pétrolier ou l'industrie pétrolière qui est en déclin, parce que les nationalisations ont globalement été réussies, même contre toute attente, et les champions arabes du pétrole commencent à émerger. L'Aramco, la SABIC en 1976 en Arabie Saoudite, la Sonatrach, qui devient la première entreprise du continent africain d'ailleurs, que les espoirs dans sa capacité de développement ou d'entraînement du reste de l'industrie qui sont en déclin dans les années 1980 et puis a fortiori dans les années 1990. C'est-à-dire dans la capacité de l'industrie pétrolière à soutenir le développement d'une industrie non pétrolière ou à soutenir un développement plus global que seulement le secteur pétrolier. Et Ghazi Abdelrahman Al-Ghosaibi, qui était à l'époque le ministre de l'Industrie et d'Électricité en Arabie Saoudite, dans un texte publié en 81 précisément, le dit très bien quand il explique que nous imaginions, je le cite, que la disponibilité des fonds, c'est-à-dire ceux qui sont hérités de la hausse de 73, auraient pu conduire de façon magique à l'accomplissement du développement.
Mais alors pourquoi citer une fatwa d'Oussama Ben Laden en prologue de ce chapitre 5 qui évoque la crise 96 ?
Peut-être parce que Oussama Ben Laden, donc, qui est né en 1957, a manifestement vécu avec beaucoup de conscience, il est d'une famille d'entrepreneurs, cette période de crise. Et dans cette fatwa de 1996, donc, qui appelle à combattre notamment les Américains, lorsqu'il dit « les gens se font le plus grand souci pour leur vie de tous les jours, les gens se demandent « sommes-nous vraiment la première source de pétrole dans le monde ?» il exprime aussi son propre parcours d'un jeune qui est né à l'époque de la Tafra et qui est arrivé à la maturité économique et politique au moment de la crise des années 80.
Alors vous citez également l'écrivain égyptien Ibrahim Abdelmegid qui rend compte dans son récit « L'autre pays » de la difficile condition d'immigrer dans les pays du Golfe.
Oui, c'est un des premiers récits et romans, en fait, en réalité, écrit par un Égyptien, mais à porter vraiment sur la question de l'immigration dans les pays du Golfe. Un des romans aussi les plus touchants, il est très sensible, notamment autour de la figure donc de cet employé égyptien, Ismaïl, qui arrive en Arabie Saoudite, à Tabouk, dans le nord du royaume, et qui découvre en fait ce qu'est une société pétrolière, ce qu'est un monde d'immigrés de toute nationalité. Il n'y a pas que des Arabes, il côtoie des Pakistanais, il côtoie aussi des Saoudiens, notamment un jeune homme qui s'appelle Mansour, et qui est une figure assez étonnante, et très bien écrite et décrite par Abdelmegid, et qui montre à quel point, au fond, la littérature, c'est aussi ce que j'essaie de montrer dans ce livre, est un témoignage très précieux quand on veut essayer de comprendre ce qu'a été le pétrole vécu par les citoyens ou par les sujets dans un royaume d'un pays arabe.
Et la littérature arabe est abondante sur ces thèmes ?
Elle est abondante si jamais on ne s'intéresse pas seulement au pétrole lui-même, mais aussi aux conséquences sociales du pétrole, à la vie, qui est la vie des conditions des expatriés ou des immigrés dans les pays arabes. On trouve de nombreux témoignages qui sont très sensibles et qui en disent parfois beaucoup plus long que des sources diplomatiques ou économiques.
Philippe Pétria, en quoi l'invasion du Koweït par l'Irak en 91 est-elle une conséquence emblématique de cette crise ?
Alors, c'est une conséquence emblématique à plusieurs titres. Je dirais à 4 titres, en fait, si on peut distinguer différents titres. D'abord parce que c'est un conflit interarabe, le premier, et qui oppose pas n'importe quel pays, l'Irak, le plus vieux pays pétrolier ou producteur de pétrole du monde arabe, mais un pays qui est passé par la basification depuis les années, la fin des années 60, depuis 68, les années 70. Qui l'oppose à Koweït, qui a été le premier producteur et un des pays les plus modernes dans sa politique pétrolière. Donc c'est d'abord un choc qui met fin en fait aux espoirs d'unité du monde arabe autour de la question pétrolière. C'est aussi un choc parce que les destructions qui sont très nombreuses au Koweït montrent à quel point en fait le développement pétrolier peut être artificiel ou fragile en réalité lorsqu'il suffit d'une invasion pour créer une pollution sans précédent dans les pays du Golfe, pour créer aussi un redémarrage économique très difficile au Koweït et dont, d'une certaine façon, l'économie koweïtienne ne s'est pas relevée. C'est aussi, troisième titre, une crise emblématique parce que l'invasion du Koweït par l'Irak en 91 arrive aussi après une crise politique très grave au Koweït qui a mené le Parlement à être suspendu au Koweït depuis plusieurs années et qui font que la renégociation politique qui permet le redémarrage de l'émirat après 91 est particulièrement difficile. Et puis enfin, c'est une crise emblématique parce que elle montre aussi l'affaiblissement des États eux-mêmes après des décennies de développement pétrolier dont on aurait pu penser ou attendre qu'elle les rendrait forts et solides. En réalité, on voit que ces pays sont encore dépendants, notamment d'une aide américaine et européenne, pour régler leurs propres problèmes.
Et puis cette guerre en 91 d'Irak contre le Koweït, cette invasion, arrive après une autre guerre, celle que l'Irak a menée contre son voisin l'Iran. L'Arabie Saoudite le lui fait-elle payer à l'Irak cher en refusant les fameux quotas de production, ce qui laisse d'ailleurs des prix bas et des revenus moindres pour l'Irak, dont les structures d'extraction ont été endommagées.
Les structures irakiennes ont effectivement été complètement détruites par la guerre avec l'Iran, notamment dans le sud, là où se concentrent les principales infrastructures d'exportation. C'est effectivement la conviction des dirigeants irakiens que l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe derrière l'Arabie Saoudite ont profité de la guerre pour s'en mettre plein les poches, pour exploiter le pétrole, y compris des nappes qui dépendraient de l'Irak. On a d'ailleurs des rapports de services secrets irakiens de l'époque, de la fin des années 80, qui montrent que clairement, les dirigeants irakiens ont la conviction que les pays du Golfe ont profité de l'affaiblissement de l'Irak dans sa confrontation avec l'Iran. Et puis, il faut aussi souligner le fait que la guerre avec l'Iran commence au moment où précisément les revenus du pétrole commencent à baisser. Et donc que la surproduction, d'une certaine façon, va rendre plus difficiles les efforts de guerre irakiens. En réalité, l'Arabie Saoudite et le Koweït ont peut-être profité d'une certaine façon de la guerre, notamment de la paralysie de la production irakienne, mais ont aussi aidé financièrement et largement l'Irak, dont les infrastructures ont été paralysées. L'Arabie Saoudite va même jusqu'à proposer un oléoduc qui traverserait son territoire pour compenser le blocage de l'oléoduc qui passait par la Syrie. L'Iran avait demandé à la Syrie de bloquer la circulation du pétrole irakien. Donc, il y a cet ensemble de revendications et en tout cas de suspicions qui, effectivement, constituent une ambiance délétère qui conduit à l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990.
Mais cette industrie pétrolière principale est souvent seule ressource financière des pays producteurs. Diriez-vous qu'elle a été confisquée par les dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs révolutionnaires ou monarchistes ?
En tout cas, les nationalisations ont fait du pétrole une affaire d'État. Et encore plus qu'une affaire d'État, je dirais une affaire des élites dirigeantes, dans un cercle, dans une acception de plus en plus restreinte, c'est-à-dire donc à la fois des monarchies ou même d'un clan au sein des monarchies ou d'un clan au sein des partis au pouvoir. C'est le cas en Algérie, au FLN. Et ce contrôle par l'État s'est accompagné d'une désidéologisation des affaires pétrolières. Là où, autrefois, le pétrole était autrement le porteur de projets panarabes, de révolution sociale et de révolution économique. Dans les années 80, au fond, l'État arabe n'a jamais été aussi omniprésent, aussi vertical. Et c'est ce que les experts vont appeler la logique de la rente. Un État qui exploite le pétrole sans en rendre compte à sa population, sans la taxer, mais donc en gardant le contrôle tout à fait autonome des revenus qu'il utilise et des revenus qui sont tirés du pétrole, y compris dans les États révolutionnaires, dont on aurait pu attendre une gestion différente. C'est le cas de la Libye, de l'Irak ou de l'Algérie, où la révolution pétrolière, au fond, est complètement décrédibilisée à la fin des années 80.
Et à partir de 1986, Philippe Pétrillat, on parle de contre-choc pétrolier. Est-ce que les économies arabes se seraient noyées dans le pétrole ?
Elles sont noyées dans le pétrole, dans un choc qui effectivement a été appelé le contre-choc pétrolier. C'est une formule qui a été attribuée, sans qu'on en soit tout à fait sûr, au directeur de l'ENI à l'époque, Franco Bernabé. Et contrairement à l'expression de choc pétrolier dont on avait parlé la semaine dernière, pour une fois, cette expression est très rapidement assumée et reprise par les experts et les responsables arabes. Alors en 1981, on voit apparaître la fin de la hausse des cours, ce qui est un renversement majeur de la tendance qui avait lieu depuis le début de l'exploitation du pétrole. Et puis en 1982, le début de la chute, donc la baisse des cours qui accélère effectivement à partir de 1986. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les États arabes font face non seulement à une noyade dans leur pétrole, mais aussi dans le pétrole des autres, au fond, puisque c'est le moment du lancement des autres productions, notamment en mer du Nord ou en Sibérie. Et cette noyade dans le pétrole a lieu alors même que les États arabes s'imposent des coupes assez sévères dans leur production. L'Arabie Saoudite, entre 1982 et 85, divise par plus de 2 sa production de barils par jour. Ce qui laisse perplexe, puisque en 81-82, Cheikh Ahmed Zaki Yamani et d'autres responsables arabes pensent encore que ce contre-choc va être temporaire et va durer quelques années avant qu'un rééquilibre ne se mette en place après ce déséquilibre qui ne devait être que passager.
L'ENI dont vous parliez, qui est la compagnie italienne de distribution et de raffinage.
Et de raffinage.
Orient Hebdo sur RFI.
Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les bignoux. Ils ont les dollars, sais bien. On a les mannequins, les grands magasins, le paradis latin. Ils ont les barils, on a les bidons. Mais pourquoi sont-ils chez Dom Pérignon? Parce qu'ils ont le pétrole.
Avec nous en studio, l'historien Philippe Pétria pour le cinquième volet de son histoire arabe du pétrole, raconté dans son livre « Au pays de l'or noir », édité chez Gallimard. Philippe Pétria, la production trop abondante de pétrole, l'arrivée de nouveaux producteurs comme le Nigeria ou l'Indonésie, les hésitations concernant les quotas, la guerre Iran-Irak, tout cela amène-t-il finalement un retournement total de situation vers la fin des années 80?
C'est un retournement total et qui apparaît bien dans le fait que les cours sont renversés et vont désormais à la baisse. Et d'ailleurs, il est analysé comme tel dès les années 80 par les experts et les responsables arabes. L'arme du pétrole, dont on vantait l'utilisation et dont on faisait en fait une sorte d'ordre de mobilisation générale de la cause arabe, se retourne au fond contre les pays arabes eux-mêmes dans les années 80. Et l'OPEP, qui avait été créée en particulier par les pays arabes avec le Venezuela, renonce elle-même à fixer les prix, alors que c'était sa mission générale en 85. Les prix passent en dessous des 20 dollars et en fait ne vont repasser au-dessus que dans les années 2000.
Mais est-ce la fin de l'État-providence avec son corollaire, évidemment, l'ouverture aux capitaux privés?
Oui, et le prince héritier à l'époque, Abdallah, qui deviendra roi un petit peu plus tard, en 1998, le dit très bien à ses homologues du Golfe lors d'un conseil de coopération. Il l'exprime en leur disant que les gouvernements du conseil de coopération du Golfe ne peuvent plus, dit-il, se permettre de tout fournir à leurs citoyens sur un plateau d'argent. Ça veut dire que désormais l'État ne doit plus être vu comme le nourricier, celui qui va fournir tous les services avec des subventions particulièrement généreuses dans les pays du Golfe. Les déficits budgétaires, l'endettement de beaucoup d'États, le gel des grands projets d'infrastructure, les mesures d'austérité font qu'on met fin à une période qui est celle de la TAFRA, dont on avait parlé la semaine dernière, et qui est celle où l'État devait en fait aller au-devant du désir de ses citoyens. Cette situation est particulièrement dramatique dans les pays qui sont confrontés à la guerre ou aux sanctions. C'est le cas de l'Irak, c'est le cas de la Libye, et puis un peu plus tard, dans les années 90, c'est le cas de l'Algérie.
Est-ce que cette situation se répercute sur le moral des populations et aussi, on peut l'évoquer, sur un certain désenchantement des intellectuels?
Oui, parce que les mesures d'austérité mettent fin à une époque d'enthousiasme et de grands projets où on pensait que le pétrole pouvait mener au développement rapide, accéléré des pays arabes et à leur unité. En réalité, dans les années 80, ce qui est mis en avant, c'est les mesures de privatisation, même si elles sont très discutées et parfois décalées, comme en Algérie, autour du Premier ministre Ghazali et de la loi 91, qui devait ouvrir le secteur pétrolier aux intérêts privés. C'est le moment des ajustements structurels qui ont un coût particulièrement pénible pour les populations, d'autant plus pénible, donc d'ailleurs, on l'a dit, que beaucoup de pays sont confrontés à des guerres ou à des révolutions, c'est le cas de l'Irak, de l'Algérie, ou à des sanctions comme en Libye.
Philippe Pétria, vous évoquez également dans votre livre une contestation à caractère religieux islamistes, des régimes, notamment les régimes révolutionnaires défaillants comme en Algérie ou en Irak.
Oui, on a beaucoup souligné la contemporanéité en fait entre la contestation islamiste dans les années 70 qui se développe et surtout les années 80 et qui deviennent les principales oppositions aux États à une époque où l'islam redevient un ferment de mobilisation sociale et pas seulement religieuse, ce qu'on appelle dans les pays du Golfe notamment la Sahwa, le réveil. C'est pas la seule, puisque à l'époque les scandales de corruption qui commencent à arriver dans les années 91, dans les années 90 en Algérie, en Arabie Saoudite, mobilisent une critique de la part de la société qui ne se limite pas bien sûr au cercle islamiste, mais qui rassemble tous les intellectuels et qui font dire à un économiste irakien comme Abbas al-Nasraoui qu'on a raté une opportunité au moment des années 1970. Mais après 91, cette contestation est redoublée par le fait que les États, y compris ceux qui devaient être les plus religieux, comme l'Arabie Saoudite, protecteur des lieux saints, ont dû faire appel à une force étrangère, et pas n'importe laquelle, les États-Unis, pour protéger leur propre territoire, alors même qu'elles ont eu plus d'une génération pour développer leur État.
Mais dans les monarchies du Golfe, Philippe Pétria, on dénonce ce que vous appelez le pétro-islam conservateur.
Alors c'est une expression qui n'est pas de moi, mais que je reprends à un philosophe égyptien, en l'occurrence, mais qui enseigne à l'université de Koweït, qui s'appelle Fouad Zakaria, et qui décrit en 1986 le fait que dans les monarchies du Golfe, le pétrole en fait a servi non seulement à accumuler des richesses, mais à maintenir surtout une société de consommation et une dynastie au pouvoir, ou une élite dirigeante qui se cache derrière la défense d'une orthodoxie ou d'une orthopraxie. Et cette défense d'un islam conservateur, en fait, détournerait, selon lui, la société des vrais problèmes, et notamment des conflits avec Israël, de la répartition plus égalitaire des ressources ou des revenus du pétrole, et en fait, n'est qu'une stratégie pour maintenir au pouvoir une clique dirigeante qui n'assume pas les réformes qu'elle devrait mener.
Et ce pétro-islam conservateur, est-ce que l'on le retrouve quelques années plus tard avec Daesh ?
D'une certaine façon, on le retrouve avec Daesh, mais il a beaucoup changé. Il est aussi beaucoup plus néolibéral qu'il ne commence à l'être dans les années 1980. Et il est aussi beaucoup plus violent.
Pour autant, n'assiste-t-on pas à une repolitisation du pétrole dans les monarchies du Golfe ?
Oui, Eric Bataillon. Et vous me permettez de revenir à la citation avec laquelle on a ouvert cette émission, la citation de d'Oussama Ben Laden dans sa déclaration de guerre de 1996 et qui s'adresse aux militants d'Al-Qaïda. Alors, cette opposition islamiste, on la voit apparaître en Arabie Saoudite, par exemple, où elle est à la fois sunnite et chiite. Elle est inspirée clairement par l'exemple de la révolution de 1979 en Iran, mais aussi par la prise d'otages qui a eu lieu à la Mecque par des militants islamistes, d'une certaine façon révolutionnaires, d'ailleurs, Juhayman al-Otaibi. Et de telle sorte qu'en 1996, lorsqu'a lieu le premier attentat à viser directement les intérêts pétroliers, on hésite à l'attribuer. C'est un attentat qui vise Al-Khobar, donc dans la région de pétrolière de l'Arabie Saoudite, dans l'Est, sur le Golfe, un bâtiment qui abrite des soldats américains chargés de protéger évidemment la région pétrolière pour le compte de la monarchie saoudienne, qui intervient lui-même un mois après un premier attentat à Riyad contre un bâtiment de la garde nationale, qui est chargé de la garde notamment des lieux de production pétrolière. Et c'est intéressant de voir que Oussama Ben Laden, en 96, défend cet attentat, en défend sa logique et en félicite les auteurs, alors même qu'on pourrait penser de la part d'Oussama Ben Laden qu'il faudrait protéger les ressources pétrolières. On verra peut-être la semaine prochaine que c'est un retournement de la stratégie djihadiste quant aux affaires pétrolières. Mais passé ce moment un peu de révolution, de Saoura, en arabe, dans un jeu de mots qui est répandu dans les pays du Golfe et dans l'ensemble des pays arabes, qui oppose Saoura, révolution, à Sarwa, l'opulence, celle des années 70. Passé ce moment de contestation des années 90-91, il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus question de révolution après. Et le pétrole ne devient plus du tout le porteur idéologique qu'il avait été précédemment. C'est ce qu'on peut appeler le désenchantement pétrolier à partir des années 1990.
Le désenchantement pétrolier des années 2000 à aujourd'hui, ce sera donc le thème que nous aborderons ensemble, Philippe Pétrial, lors de notre dernière émission dimanche prochain. Merci.
Merci Eric Bataillon.
Rappelons que cette série d'émissions s'appuie sur votre livre « Au pays de l'or noir, une histoire arabe du pétrole » publié par les éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Unemployment on the rise, gasoline issues a weak line, rent being paid late, please, let the dollar circulate, let the dollar circulate. Utilities are on their way. Airlines are running late. Please let the dollar circulate. Let it circulate.
Orion Hebdo sur RFI.
World airlines are long and static. Someone tell me where the money went. Creditors won't even let us skate. Please let the dollar circulate. Don't hold on to the dead dollar, 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 dollar. Circulate. Polluting the air with smoke. Politicians talking crazy. Workers being soon lazy. Is it all because of one?